μα η δική μου απόψε έχει κλάμ.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h. Rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Bonjour et bienvenue sur La Clé des Ondes pour une nouvelle émission du Guide du Bordeaux colonial. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir à nouveau Beata Oumoumbi-Imérès pour son nouvel ouvrage, un récit intitulé « Le Convoi ». Jean-François Mekel, donc, dans le rôle de l'animateur, Hugo Manette, merci Hugo. Une émission en direct pendant laquelle nous entendrons quelques musiques choisies par notre invité, qui sera d'ailleurs sommé de s'en expliquer. Bonjour Beata.
Bonjour.
Et d'abord, en introduction, je voudrais faire cette remarque que je chippe au papier à propos de votre livre que j'ai produit pour la revue Ancrage d'avril et qui dit ceci. Drôle de monde que celui de la critique littéraire, singulièrement parisienne, mais hors Paris, point de salut, qui peut quasiment ignorer pendant des années des auteurs et tout à coup les découvrir. Alors enfin, ils sont chroniqués, interviewés dans tous les grands quotidiens, hebdo, émissions de télé et de radio, et c'est tant mieux. Ce fut donc le cas cet hiver pour deux auteurs bordelais, vous, Beata, et puis pour Hervé Lecor, qui, pour son livre, qui après nous vivrait chez Rivage Noir. Et je précise dans ce papier, avec un peu de flagornerie, deux auteurs qu'Ancrage vous présente depuis longtemps dans sa rubrique « Mémoire des livres ». Oui, oui. Et Beata, est-ce que vous avez une explication à ça? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour vous, parce que les Parisiens, il y a quand même déjà un petit moment qui vous ont reconnu, d'une certaine manière. Mais cette année, avec ce convoi, vous êtes partout. Et tant mieux, je disais.
Bah, j'ai l'impression qu'Hervé Lecor, il est quand même connu nationalement depuis un certain moment aussi. Moi, j'avais entendu avec beaucoup, beaucoup de plaisir chez Augustin Trapenard dans l'émission sur France Inter, Boomerang, il y a quelques années. Après, évidemment, on ne sait jamais s'expliquer pourquoi c'est ce livre plutôt qu'un autre qui va attirer le plus d'attention. Bon, évidemment, pour ce qui est du convoi, il y a... 30 ans, donc il y a une date un peu anniversaire comme ça. Je pense aussi que ces dernières années, de nombreux journalistes ont parlé du Rwanda et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience un peu plus importante au niveau national de la réalité de cette histoire. Et puis pour le reste, eh bien, c'est un mystère, c'est le mystère de la littérature et des médias.
Alors, petit portrait préalable, vous êtes né à Butare, on le dit comme ça, hein,
oui.
au sud-ouest du Rwanda, pas loin de la frontière avec le Burundi. C'était en 1979, votre maman est Tutsi, votre père polonais, mais ce dernier disparaît très tôt dans votre vie. Et pourtant, vous lui devez votre métissage et cette peau claire, ce qui vous sera bien utile, on y reviendra. Avec votre mère, vous échappez au massacre des vôtres et quittez le Rwanda dans le convoi du 18 juin 1994. C'est donc le sujet du nouveau livre. Vous avez à l'époque 15 ans et donc une nouvelle vie commence en France, à Lille plus précisément. Vous faites des études littéraires, vous faites l'Institut d'études politiques et ensuite un DESS en coopération internationale et développement à Panthéon-Sorbonne. C'est un beau parcours universitaire ça, Beata.
Quand je vous entends, je me dis que c'est un parcours comme il est difficile de faire aujourd'hui pour un réfugié qui arriverait. J'ai l'impression que j'ai été parmi les dernières bénéficiaires d'un système d'accueil et d'intégration républicain. Parce que c'est ça, c'est que j'ai été... évidemment, j'ai été accueillie par une famille d'accueil française, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre plutôt de la charité, mais j'ai pu bénéficier d'une prise en charge, d'une bourse, d'études qui étaient accessibles. Alors voilà, sans vouloir être l'arbre qui cache la forêt, il y a un côté un peu produit de la méritocratie républicaine. Mais qui a été possible et qui, je pense, ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, quoi, 30 ans après.
Alors, vous travaillez dans des ONG internationales. Là aussi, ce n'est pas par hasard, j'imagine. On le verra à propos de ce livre. Le fait de travailler dans l'humanitaire.
Non, évidemment. Évidemment, a posteriori, je me dis... que j'ai quand même choisi aussi des métiers et des thématiques qui, en schématisant, consistaient à lutter contre la mort, ce qui, pour une survivante, est un peu est évident comme ça. Mais en tout cas, quand il s'est agi pour moi, à l'âge de 20 ans, de choisir un métier, de façon un peu romantique, comme on peut l'être, hein, à 20 ans, je me suis engagée dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Et puis, petit à petit, les déplacements de la vie faisant, j'ai terminé à Bordeaux,
Alors voilà, en 2007, vous installez à Bordeaux. Mm. Là aussi, vous continuez à travailler, vous coordonnez des projets de prévention dans le domaine de la santé.
Oui.
Vous y animez, depuis déjà quelques années, un cercle de lecture afro-caribéenne. Mm-hmm. Et pour être très complet, vous êtes marié, vous avez deux fils, dont l'aîné a maintenant quasiment l'âge que vous aviez quand vous êtes arrivé en France.
Oui.
En 2015, début de la littérature, de votre entrée en littérature, vous publiez Ejo. Je ne sais pas si on prononce comme ça. C'est un recueil de nouvelles, puis un deuxième intitulé Lézarde, puis un roman, j'en passe un peu, mais un roman, Tous les enfants dispersés, 2019, et puis Consolé, c'était l'an passé, vous étiez déjà venu ici nous en parler. Et aujourd'hui, donc, avec Le Convoi, vous êtes publié chez Flammarion.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Alors, Le Convoi, qu'est-ce qui déclenche l'écriture de ce livre? On devrait plutôt dire cette enquête, compte tenu que vous expliquez que vous avez attendu 15 ans pour vous pencher, pour vous autoriser à parler de votre histoire personnelle. Quel est le déclencheur?
Le déclencheur, au départ, ce n'est pas du tout un projet de livre. C'est, donc il y a une quinzaine d'années, l'envie de retrouver une image sur laquelle je pense se figurer, ainsi que ma mère, puisque quand nous avons traversé la frontière en 1994, donc on a pu quitter le pays grâce à un convoi humanitaire de l'ONG suisse Terre des Hommes, des gens nous ont dit, un peu après, nous avoir vus à la télévision britannique, à la BBC. Et il se fait que ce jour-là, nous avions remarqué qu'il y avait des blancs qui filmaient, des caméras, une caméra. Mais cette information, quelque part, elle se met dans un coin de ma tête, et puis, dans l'immédiat, après 94, je suis dans une démarche de refaire ma vie, donc je fais mes études, trouve un métier, je construis ma vie. Et il se fait, et là aussi, c'est a posteriori, quand j'ai commencé à écrire le livre, que je me suis dit, mais en réalité, ça fait sens. C'est au moment où je suis enceinte de mon premier enfant que je décide, poussée par mon mari, qui m'y incite, en disant, tu voudrais pas retrouver cette image, décide de rentrer en contact avec les journalistes de la BBC, sans savoir au départ qui ils sont, comment les retrouver. Enfin, c'est vraiment une enquête, mais au début, c'est une sorte de courriel envoyé comme on jette une bouteille à la mer, en disant, voilà, on nous a dit nous avoir vus à la télévision. Est-ce que, par hasard, c'est vous qui avez été ce jour-là à la frontière, c'est vous qui avez filmé, est-ce que vous avez des images? Voilà comment tout commence.
Et un mot quand même, dès maintenant, sur le titre. Le convoi qui renvoie à d'autres convois, mais là on est quasiment à front renversé, parce que finalement, c'est un convoi libérateur. Les autres convois auxquels on fait allusion, 94, 44, 40 ans avant, ce sont des convois qui amènent à la mort. Et là, ce convoi va vous amener à la vie, justement. Mmh. D'où ce titre, finalement, est fort de ce point de vue-là.
Oui, c'est un titre qui s'est un peu imposé à moi très rapidement pendant l'écriture. Évidemment, je précise dès le départ dans le livre que je sais que ce mot de convoi est très connoté dans la société d'où je parle maintenant, qui est aussi la mienne, la France, et la société occidentale, et en précisant bien que moi, nos convois, c'était des convois de la vie, alors qu'ici, ils renvoient au convoi de la mort. Néanmoins, j'ai tenu à garder ce mot-là, puisque c'était tout simplement le mot qui était utilisé. C'était, on disait, vous allez partir avec un convoi, et que... Alors, j'avais hésité à mettre le convoi du 18 juin, mais ça faisait vraiment double référence, trop... Et en l'occurrence, aussi, ce livre ne parle pas que du convoi du 18 juin, puisque mon enquête m'a amenée à réaliser qu'il y en avait eu plusieurs. Bon, je savais déjà, quand j'ai commencé, parce que j'avais des amis qui avaient survécu dans le dernier, grâce au dernier convoi, celui de début juillet, mais il s'est agi vraiment pour moi d'aller recueillir le maximum d'informations sur à la fois qui avait organisé ces convois, dans quel cadre, comment ils s'étaient déroulés, et aller jusqu'à essayer de retrouver les différents protagonistes, et notamment les enfants des différents convois.
Et pour poursuivre avec ce fil-là, vous dites d'ailleurs que par rapport à la Shoah, que c'est au contact de ces survivants des camps nazis que vous avez forgé votre langue pour ce livre.
Au contact de leurs mots, en tout cas, puisqu'il s'est agi pour moi, quand je suis arrivée en France en 94, et dans les années qui ont suivi, et jusqu'à aujourd'hui quelque part, de trouver, puisque cette expérience de survie était une expérience extrêmement solitaire, j'étais entourée de gens qui ne la comprenaient pas, qui pour certains n'étaient même pas en capacité de l'entendre. Il s'agissait pour moi, pour me construire en tant que jeune femme, de trouver des mots d'autres qui puissent habiller cette solitude et en tout cas y mettre un sens. Et en l'occurrence, dans ce livre, effectivement, je suis pratiquement constamment en train de tendre la main vers ces autres histoires de génocide. Alors, il y a effectivement les survivants des camps d'extermination nazis. Mais par moments, je parle aussi du génocide au Cambodge, du génocide des Arméniens, parce que les textes des uns des autres, les témoignages des uns des autres m'ont accompagné pendant toutes ces années pour moi pouvoir trouver une langue, pour me tenir debout aussi.
Alors on va faire une première pause musicale avec une musique que vous avez choisie, de Max Roach. C'est du blues, mais un espèce de blues justement. J'ai plus le titre en tête là.
Freedom Now.
Voilà, et c'est quelque chose de plutôt tourné vers la vie, si je ne me trompe pas.
Alors, c'est vraiment une référence à mon fils, parce que mon fils, qui a 15 ans, donc aujourd'hui, est musicien, il est batteur, et il me fait beaucoup découvrir... j'aime bien écouter, même quand il a des conversations avec d'autres personnes sur les musiques, et en l'occurrence, c'est une façon d'écouter la jeunesse aussi, avec leurs choix, qui sont parfois des morceaux très anciens. Hein.
Must be lying, can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true if free.
Revenons, Béata, revenons à ces mois et ces semaines qui précèdent votre départ du Rwanda. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez été contrainte de vivre avec votre mère?
Comme la plupart des Tutsis, à partir du 7 avril 1994, en se cachant et en ayant une menace de mort constante au-dessus de nos têtes. Alors, nous habitions dans le centre-ville de Boutaré, dans un appartement qui jouxtait un complexe hôtelier qui datait de l'époque coloniale. Et cet élément est important parce que c'était donc un immeuble très, très large, avec des chambres d'hôtel, également avec une cave, ce qui était un fait extrêmement rare au Rwanda, parce que dans la construction des maisons sur les collines, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de grenier. Et là, en l'occurrence, comme c'était une construction datant de l'époque des Belges, il y avait des caves et c'était une cachette que les tueurs ne cherchaient pas, ne sachant même pas que ce genre de choses existent. En général, quand ils attaquaient les maisons, ils allaient directement regarder dans les faux plafonds, parce que beaucoup de gens se cachaient dans les faux plafonds. Et pour le coup, c'était des cachettes très faciles à trouver. Donc nous avons été... nous sommes quand même passés de lieu en lieu, puisqu'à un moment donné, la vie dans cette cave, qui n'avait pas été ouverte depuis des décennies, donc les murs étaient couverts de cafards et où l'air était assez très 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 humide et difficilement respirable, on a dû passer à un autre endroit, et jusqu'à ce que le début du mois d'avril, début du mois de juin, une horde de tueurs nous découvre dans une des chambres de l'hôtel où on était, avec donc ma maman et une autre dame qu'on avait croisée au cours de notre fuite, sachant qu'il y avait deux personnes qui travaillaient pour l'hôtel, qui avaient des faux papiers de Hutu alors qu'elles étaient Tutsis, qui nous aidaient, qui nous nourrissaient, qui nous avaient aidés à nous cacher, et deux Hutu également qui travaillaient là, et dont on soupçonne qu'ils ont fini par dire qu'on était là, qui étaient présents au moment de cette attaque, et d'autres Tutsis salariés de l'hôtel qui se cachaient dans des... pas loin de nous, ont été découverts au même moment, et deux d'entre eux ont été tués sur le champ, et pas nous.
Et jusqu'au moment où vous finissez par être découvert, et tu utilises un stratagème pour éviter la mort, en fait, en te présentant comme fille de Français.
Oui, quand ils ont, je le raconte dans le livre, quand ils ont cassé les vitres et forcé la porte et qu'ils nous ont découvertes, une des premières exclamations de leur part a été, en me voyant, de dire « il y a une blanche » parce que les métis souvent sont considérés comme blancs, désignés comme blancs dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, en l'occurrence au Rwanda aussi. Et du haut de mes 15 ans, sans avoir vraiment, sans avoir du tout rien préparé, me vient cette idée, et vraiment c'était qui tout double, hein. Je décide d'être vraiment une blanche, alors que j'avais été scolarisée dans une école internationale, donc je parlais couramment français sans accent. Mais je n'avais jusqu'alors été élevée que par ma famille noire, ma maman. Mais je rentre dans un rôle, je crée une identité, je fais semblant de ne pas comprendre ce qu'ils disent, donc de ne pas comprendre la langue nationale du Rwanda, le Kinyarwanda. Et ma mère, parce que je lui dis « mais qu'est-ce qu'ils disent, je ne comprends pas », saisit qu'il faut... jouer ce rôle également, et elle commence à me traduire. Et je leur dis, mais moi, mon père est français, vous ne pouvez pas me tuer, parce que j'étais une adolescente fait assez rare qui s'intéressait à l'actualité, et qui savait, je pense que c'est un sujet que vous avez déjà abordé dans l'émission ici, qui savait que... L'État français, enfin les politiques français, les militaires français soutenaient ce gouvernement génocidaire. Et que pour ces tueurs-là, la France était un pays ami.
Et ça protégeait, quoi, d'une certaine
voilà.
manière.
Voilà. Et c'est cette peau, cette langue, c'est-à-dire le fait de ne leur parler qu'en français. J'ai la présence d'esprit aussi d'identifier, parce que c'est une horde de plutôt de paysans, d'identifier parmi eux celui que je devine être le chef, parce qu'il, pour le coup, lui n'a pas l'air de tuer, il n'a pas les vêtements couverts de sang, et il a une chemise propre, un bic qui dépasse, donc je me dis, lui, ça doit être
un peu le chef,
un intellectuel, donc je m'adresse à lui, et cette adresse aussi, quelque part, crée quelque chose. Enfin, voilà, c'est... ça aurait pu ne pas fonctionner. Ce jour-là, ça a marché. Comment l'expliquer ? Eh bien, je mets tous les éléments sur la table en disant j'avais la couleur de peau, j'ai parlé français, j'ai évoqué François Mitterrand, et ça a fonctionné.
Oui, la présence d'esprit d'avoir ça en tête et de jouer avec ça, oui, c'était quand même... c'était fort, quoi.
Mais c'est pour ça que quand j'interviens dans les établissements scolaires et je le raconte... en témoignant notamment devant dans un lycée à Nice, le lycée Thierry Monnier, quand je m'adresse aux adolescentes et aux adolescents qui ont l'âge que j'avais à l'époque, j'essaye vraiment de leur faire passer des messages en leur disant d'être vigilants, de s'intéresser à l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde, parce que quelque part, c'est ça qui m'a sauvée ce jour-là. De lire les journaux, de savoir quels journaux ils lisent, de savoir qui produit les informations qu'ils consomment quand ils en consomment, et d'avoir vraiment de développer l'esprit critique. Et quelque part, j'incarne ça, c'est-à-dire que les parents ou les professeurs peuvent leur dire, Mais quand une femme arrive et leur dit « à votre âge, ça m'a aidé », donc ce n'est pas quelque chose de futile ni de et ça, ça a un impact dans les vies concrètes des gens, ils l'écoutent.
Et donc là interviennent cette fameuse association Terre des Hommes, ONG suisse, qui vous prend en charge, qui vous héberge d'abord dans une école, et qui vont vous permettre de partir dans un convoi. Là, encore une fois, hein, vous n'aviez pas votre place, parce que c'était réservé aux enfants de moins de 12 ans. Mmh. Et malgré tout, vous empruntez ce convoi. Là aussi, il y a de nouveau, grâce à ces gens, une nouvelle chance.
Oui, oui, oui. Et j'ai été alors interrogée. Et malheureusement, le monsieur qui a organisé... Alexis Briquet, qui a organisé ses convois au début, et puis ensuite il sera rejoint par sa compagne, Diana Cavadini, est mort très très peu de temps après que je l'ai trouvé. Donc je n'ai pas pu lui poser toutes les questions, je n'ai pas pu recueillir toute sa mémoire de ces événements. Mais j'ai quand même pu lui demander comment... Le souvenir qu'il en gardait, il avait un souvenir très précis de ma maman et moi, et du fait que, voilà, on lui avait demandé de nous laisser. Et j'ai compris que c'était une religieuse amie de ma maman qui avait intercédé. Mais... Et là encore, c'est un convoi qui doit parcourir une trentaine de kilomètres, qui va le faire au bout de très longues heures, parce que depuis la ville de Boutaré jusqu'à la frontière avec le Burundi, il y a énormément de ce qu'on appelait des barrières, c'est des sortes de checkpoints dressés par les miliciens, Inyarahamwe, les extrémistes Hutu, avec armés de machettes, de gourdins, de coutelas, et qui espèrent à chaque fois pouvoir retirer les enfants des convois pour les tuer, sachant que dans ces camions, il y a beaucoup d'enfants tutsis, mais comme Terre des Hommes s'est adressé au départ à des orphelinats, à des enfants, des groupes d'enfants handicapés qui étaient pris en charge par des structures et qui se retrouvaient pris dans... Parce que parallèlement au génocide, il y avait aussi une guerre. Il y avait également des enfants hutus. Et ce qu'on ne sait pas d'ici en France, c'est que hutus et tutsis ont la même langue, la même religion, la même couleur de peau, la même culture, et que ce n'est ni au nom ni a priori au visage, même si on peut dire oui, il y avait des traits plutôt tutsi ou hutu, mais ça aurait été compliqué. Et ces enfants n'avaient pas de carte d'identité, donc. Mais ça a été le voyage le plus long de toute ma vie. C'est 30 kilomètres.
Et donc le in fine, il y a le passage de la frontière au Burundi. Et la suite qu'on a racontée tout à l'heure, vous partez à Lille. Pardon. Mais c'est là que donc tout se noue pour ce qui est votre travail de mémoire personnelle, c'est cette quête, cette enquête à partir d'une photo qui est prise à cet endroit-là et qui est sur
le bandeau de couverture
du livre, où donc vous passez la frontière et vous êtes sur ces images. En fait, il y a des journalistes de la BBC qui filment et des photographes qui photographient. Et donc c'est toute votre vous allez apprendre ça un jour, que on vous a vu sur des images de la BBC. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est ce qui va déclencher cette quête, cette enquête, et qui va provoquer, in fine, l'écriture du livre. Et donc, ça a été très compliqué.
Ça a été un parcours de combattante. Hein. Dans un premier temps, donc, je contacte les journalistes de la BBC. Je rencontre Fergal Keane, qui est le grand reporter qui à Londres souffre de syndrome post-traumatique lié, entre autres, pas que, mais entre autres, à cette expérience de ces deux semaines où ils ont traversé une partie du Rwanda en juin 94. Il me remet le documentaire qu'ils ont fait qui comprend à peu près deux minutes du convoi sur lequel Je ne me vois pas, je ne vois pas ma maman. Et je me dis, bon bien, c'est un cul-de-sac, ma quête s'arrête là. Quelque temps après, un autre de l'équipe, qui lui était le preneur de son, qui était journaliste sud-africain, nous contacte par courriel en disant, eh bien, j'ai reçu votre mail. Et puis, mes étudiants, il enseigne dans une école de journalisme au Lesotho, m'ont dit, mais il faut vraiment que vous les contactiez. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. Donc, il me dit, j'ai quatre photos prises ce jour-là, peut-être que vous êtes dessus. J'ai ces quatre photos dans mon ordinateur, je les regarde, je ne me vois pas, mais déjà, j'approche un peu parce que dans un creux, au fond d'un camion, on voit bien qu'il y a quelque chose d'étrange. C'est parce que ma mère et moi, on était couchés avec des tissus au-dessus de nous, et les enfants au checkpoint s'asseyaient au-dessus de nous pour que justement on ne voit pas, parce que nous on n'avait pas l'autorisation d'être dans ces convois. Et c'est en creux, c'est par le vide que la présence est affirmée. Mais néanmoins, ces photos-là, je les garde de nouveau dans mon ordinateur sans rien en faire. Il faudra encore des années pour que je réalise que, eh bien, cette quête que moi j'ai pu faire de chercher des images, mais peut-être que d'autres enfants qui sont visibles sur ces photos, sont en train de les chercher quelque part. Et ma démarche première, ou en tout cas la seconde étape de ma démarche, consiste à essayer de trouver la liste des enfants du convoi du 18 juin, que je n'ai toujours pas trouvée. Mais à chaque cul-de-sac, à chaque arrêt, finalement, une autre piste s'ouvrait à moi, et je me disais, mais tiens, ça, je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Et en cherchant cette liste d'enfants, je trouve les humanitaires, que je n'avais pas cherchés. Et c'est aussi un mystère pour moi de pourquoi je n'ai pas cherché ces gens-là pour les remercier, alors que par ailleurs, toutes les personnes qui m'ont aidée, ou pratiquement toutes, depuis l'enfance, j'ai été dans une démarche de gratitude et d'aller retrouver les gens. Et donc, je retrouve les humanitaires, et en les retrouvant, ils me disent, enfin Alexis Bréquet me dit, mais nous étions accompagnés par des Italiens, dont un photographe qui a pris beaucoup de photos. Et alors, Alexis disparaît très brutalement, mais je contacte ce journaliste italien, ce photographe italien, et c'est là que, au bout de longs mois, parce que il y a aussi des incompréhensions, j'ai rencontré des gens qui parfois ne saisissaient pas à quel point c'était important pour moi de trouver ces photos. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile.
Mais en tout cas, c'est comme ça que... Il y a quelque chose d'administratif et de compliqué, quoi.
Il y a deux choses. Il y a à la fois le côté administratif des archives, ou que ce soit les archives de Terre des Hommes, les archives du CICR, auxquelles je n'ai jamais pu avoir accès, ou les archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, où quelque part c'est extrêmement long, c'est compliqué, c'est plein de portes qui se ferment, et où on se rend compte aussi que finalement, si on est journaliste, si on est chercheur, si on est
c'est plus facile,
humanitaire, on va avoir accès, mais quand on est la
victime
et la personne dont c'est l'histoire intime, finalement notre place n'a pas été prévue dans ce schéma administratif-là, donc il a fallu pratiquement par moment que je force des portes. Et puis à côté, il y a la question des journalistes, des individus, qui pareil m'a beaucoup interrogée sur leur attitude parfois d'incompréhension ou même de non-soutien face à la quête des victimes d'un conflit ou d'un génocide qu'ils avaient pourtant couvert et dont ils avaient été témoins.
Alors on reviendra sur le rôle des images et de la photo captées finalement par les Occidentaux, qui laissent peu de place aux victimes. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, finalement, dans cette quête, ce qui est important, c'est que vous avez recréé avec les enfants devenus adultes que vous avez retrouvés, il y en a eu quelques-uns, tout à coup, c'est recréé une communauté autour de cette histoire. Pour eux, ça a été aussi très fort de se voir tout à coup et de pouvoir aussi mettre des mots sur leur propre histoire. Donc vous avez fait œuvre collective d'une certaine manière avec ça.
C'était extrêmement important pour moi que ça ne soit pas un travail ou une démarche individuelle même si au départ, voilà, tout au début, je dis, est-ce que c'était pas quelque chose de très individualiste de vouloir chercher une image de moi et de ma maman, mais très, très rapidement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'un destin collectif et qu'il était nécessaire que je leur donne la parole, et en tout cas celles et ceux que j'ai pu retrouver. Et donc on devient les enfants du convoi, quelque part.
Alors, on va faire une deuxième pause musicale avec une musique que vous avez choisie. C'est une interprétation, une très belle reprise par Albin de la Simone d'une chanson de William Scheller, « Oh, je cours tout seul », et un sentiment de solitude et d'incompréhension à travers cette chanson, semble-t-il.
Alors j'aime bien la toute première phrase, vous entendrez, il s'agit d'images, et c'est un livre qui parle d'images. Mais quand je suis arrivée en 94, j'aimais beaucoup écouter William Scheller, donc c'est un souvenir de l'adolescente que j'étais. Et puis effectivement, il y a des phrases qui font écho à certaines des interrogations du livre.
La vie, c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui saluent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimerait peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Voilà, c'était donc Albin de la Simone, pour cette belle reprise de William Scheller. On va essayer de, avec vous, Beata, de creuser un peu dans ce livre. J'ai toute une liste de questions un peu dans le désordre. Je vais peut-être commencer par les mots. Les mots qu'on retrouve et qui sont ceux qu'on applique à ceux qui reviennent de cet enfer-là. Il y a le mot génocide. On pourrait dire un mot du sens, d'où ça vient, un génocide. C'est pas très ancien. C'est après la Shoah que la décision a été prise de qualifier de génocide un certain nombre de massacres, donc celui des Arméniens, la Shoah bien sûr, et puis évidemment ce qui s'est passé au Rwanda. Dans le génocide, il y a des rescapés, il y a des survivants. Vous vous situez où, vous, dans ces formulations?
Au départ, je suis objet de cette désignation. Et donc, c'est ce que je raconte, c'est que c'est des mots, tous ces mots-là sont... quand j'étais adolescente, j'ai lu des choses sur la Shoah, par exemple, mais tout d'un coup, ce sont des mots que l'on utilise pour me désigner ou pour désigner ce que je viens de traverser. Et il s'agit pour moi de les apprivoiser ou en tout cas de vivre avec. Et comme je dis, ce mot de génocide, il est à la fois immense et minuscule à la fois. Il écrase et en même temps, qu'est-ce qu'il peut dire de la perte absolue d'un monde, d'une famille, d'une identité et même d'une place dans l'humanité quelque part, parce que c'est ça un génocide, c'est que à un moment donné des gens décident que vous ne faites plus partie de l'humanité et comme je disais tout à l'heure, il faudra que je passe par les textes d'autres survivantes et survivants pour reprendre langue avec cette humanité, pour y retrouver une place et éloigner ces mots, en tout cas les apprivoiser, voilà. Sans partir dans les définitions juridiques et puis... le travail qu'a pu faire Raphaël Lemkin, mais que moi, j'ai jamais fait de même si j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai très vite abordé cette question-là, non pas sous l'angle juridique ou de sciences politiques, mais plus celui de comment l'art peut en parler. Mon mémoire d'études à Sciences Po, c'était sur le projet des écrivains africains de Fest Africa qui était parti en 98 justement pour écrire des livres sur le génocide contre les Tutsis, le travail de Bruce Clark sur le jardin de la mémoire. Donc c'était plutôt très vite qu'est-ce que l'art peut... Parce que j'avais l'impression que c'était peut-être là où il y avait... Il y avait de la vie, il y avait de la chair, c'était pas que des statistiques, c'était pas que des termes juridiques, c'était la réalité de vie qui disparaissent, la réalité d'une extermination vécue à hauteur d'adolescente, quoi.
Et alors cette expression que tu emploies sur le fait de avoir été écarté de l'humanité et peu à peu y retrouver sa place, c'est exactement ce que disent les survivants de la Shoah aussi. C'est-à-dire que, oui. Et notamment, plus localement ici, nous, à travers l'affaire Papon et le procès, oui. Papon, on a vu comment le fait simplement que la collectivité se penche sur cette affaire et reconnaisse des coupables, reconnaisse des responsabilités, a suffi d'une certaine manière... a permis au moins de leur rendre une forme d'humanité, dans la mesure où, tout à coup, ils étaient reconnus comme victimes. Quoi.
Bien donc, sûr, c'est vraiment important ce travail que toi tu as fait de recueillir le témoignage de ces parties civiles, en se disant qu'il a fallu 40 ans. Mmh. C'est aussi sûr. Ça, quoi. Mmh. Le procès Papon, moi, j'étais déjà arrivée en France, et je suivais ça dans les journaux, et c'est de se dire que, 97, 98, c'est ça, hein, ces 6 mois-là qui ont enfin permis quelque part de dire les choses dans un Bordeaux qui, j'imagine, était aussi resté silencieux sur les compromissions, sur le discours du Veldiv de Jacques Chirac. C'était la première fois qu'il y avait une reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Oui, il a fallu tellement d'années. Ce que je dis aussi dans mon livre, je cite un texte de Marguerite Duras qui... Alors, son mari, Robert Anthelme, avait été déporté parce que résistant, pas parce que... c'était pas un survivant de génocide, mais elle dit... Elle récupère son mari dans un état absolument squelettique, elle nourrit à la petite cuillère, et elle a ce cri de colère comme ça, elle dit mais le général de Gaulle ne parle pas des déportés. C'est fou comme il ne parle pas des déportés. C'est fou comme... Les victimes ont été silenciées
c'est le
pendant
terme
des
emploie,
années,
oui.
pendant des décennies. Primo Levi, quand il publie « C'est un homme », ce livre passe quasiment inaperçu. Il faudra 30 ans pour qu'on le redécouvre, qu'on l'écoute, qu'on l'entende. Et c'est aussi important de resituer ça, finalement. Moi, c'est tout ça qui m'a, petit à petit, que j'ai compris et qui m'a permis de situer mon expérience intime et notre expérience collective de survivants du génocide des Tutsis comment les sociétés gèrent ces histoires-là.
Mais visiblement, oui, il faut ce temps, quoi. Il y a une espèce de temps du... Je ne sais pas comment l'appeler, le temps du deuil, le temps que peut-être des générations passent, que d'autres générations arrivent sur le plan politique en France. Ça a été quand même un peu ça autour de Papon. Tout à coup, on a eu affaire à des gens qui étaient plus liés à cette époque.
Et comme par hasard, au Rwanda, et pour Papon, on retrouve François Mitterrand.
Ah, tout à fait, bien sûr, oui, exactement. Et son âme d'année, qui nie toujours son rôle, son nom m'échappe là. Mais,
Hubert Védrine, qui était reçu ce matin sur France Inter, pour parler de... Enfin, c'est assez... C'est une violence inouïe d'avoir quand même cet homme qui est encore partout reçu, oui.
Donc, est-ce qu'on est... Il y a aussi cette formule que... On reviendra tout à l'heure sur l'histoire de la photo et de la légende des photos, mais il y a aussi cette idée que, justement, on considère encore en Occident que l'Afrique, c'est le cœur des ténèbres de Joseph Conrad, quoi. Est-ce qu'on en est là encore, ou est-ce qu'on a... Enfin, on a quand même un président, Sarkozy, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a eu aussi une formule
Le discours de Dakar, que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire.
Enfin oui. On a un retard fou quand même sur tout ça, quoi.
Il y a un travail important de déconstruction des clichés, de décolonisation des imaginaires encore à faire. Cette émission y contribue, par exemple. Mais le Rwanda et le génocide contre les Tutsis, c'est presque un cas d'école de tout ce que cet imaginaire-là a pu créer. Dès le départ, dès la colonisation belge, avec l'ethnicisation des groupes Hutus et Tutsis qui n'auraient pas dû être considérés comme des ethnies, mais les colons ont décidé qu'on mettait sur la carte d'identité l'ethnie Hutu, Tutsi, toi, et que ça se transmettait. Et puis voilà, ça a été vraiment une construction, cette ethnisation. Avec un génocide derrière, au moment du génocide, les propos des journalistes, il y a vraiment eu aussi une faillite de... des journalistes présentant ce qui était un génocide, donc une construction éminemment moderne, politique, comme une violence atavique avec un peuple qui s'entretue depuis la nuit des temps, une non-volonté de voir la réalité de la propagande et de l'organisation de ces génocides, avec effectivement des autorités françaises que ça arrangeait bien, puisque ça permettait de ne pas montrer leur implication directe. Et encore pendant longtemps, oui, cette façon... Moi, je cite souvent, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et que j'ai mis en exergue de mon tout premier livre, Ejo, c'est cet extrait de ce livre magnifique de Annie Ernaux, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les années », où elle dit, à propos du Rwanda, elle dit « On avait moins envie de s'intéresser au Rwanda, faute de distinguer qui des Hutus ou des Tutsis étaient les bons et les méchants. Depuis toujours, penser à l'Afrique remplissait de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle vivait dans un temps antérieur au nôtre, avec des potentats à châteaux en France, et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin. C'était le continent décourageant. Voilà. Quand elle écrit ça dans les années 2000, c'est vraiment elle traduit la façon dont les Français regardent ce continent. Et donc, quand on vient de cet endroit-là, qui a été pendant des siècles raconté, mal raconté par d'autres, et qu'on essaye de se réapproprier son récit en disant « Écoutez, maintenant je vais vous raconter qui nous sommes, ce que nous avons vécu, tout en connaissant très bien votre monde, votre langue, votre histoire, parce qu'aujourd'hui c'est aussi la mienne », on déplace des choses. Et c'est nécessaire qu'on le fasse, et on est de plus en plus nombreux à le faire aujourd'hui.
Alors c'est justement le titre du chapitre 4, du dernier chapitre, qui est « L'heure de nous-mêmes ».
Oui.
Très clair, ça. Et ça pose le problème de la manière dont, en effet, très précisément par rapport au génocide de 94, les médias ont rendu compte de ce qui se passait. Et cette idée que ce sont les Occidentaux, en effet, bon, là tu viens de citer Annie Arnaud, là on est dans une dimension plus importante, mais là, autour de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était les Occidentaux, les journalistes occidentaux qui donnaient leur vision depuis eux-mêmes de ce qui se passait. Mmh. Et toi, tu dis aujourd'hui, ça suffit, quoi. C'est à nous aujourd'hui à légender nos photos.
Alors, je ne dis pas que ça suffit dans le sens où les journalistes occidentaux n'ont plus à écrire sur le reste du monde, pas du tout. Ce que je dis, c'est... Il est nécessaire, d'une part, d'écouter les principaux protagonistes et de mettre au centre de du récit national, mondial, d'une histoire, les gens qui l'ont vécu directement. Et ironiquement, je vais jusqu'à dire, est-ce que vous pouvez vous imaginer que les principaux conflits de l'Occident... la Shoah, la guerre de sécession, si votre histoire avait été écrite et racontée par des Africains et des Sud-Américains, uniquement. Parce qu'il y a eu un peu de ça à un moment donné. Quand on s'intéresse... Je prends l'exemple de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, on ne la connaît pratiquement en Occident que par le narratif qui en a été fait par les Américains, les perdants. On a toujours tendance à raconter, dire que c'est la guerre est racontée par le vainqueur. Là, en l'occurrence, la guerre du Vietnam, je vous mets au défi de me dire, est-ce que vous avez, combien de gens ont lu et entendu la guerre du Vietnam racontée par les Vietnamiens, qui d'ailleurs ne l'appellent pas la guerre du Vietnam, mais la guerre américaine. Non. Et pour ce qui est du génocide contre les Tutsis du Rwanda, certains travaux étaient très, très importants. Je pense par exemple à tous les journalistes, enfin les quelques journalistes qui se sont battus pour faire connaître la responsabilité de la France. Je cite notamment Patrick de Saint-Exupéry dans le livre. Mais j'étais hier à Nancy avec Laurent Larcher aussi, qui a travaillé là-dessus. Mais il y a eu également, quelque part, on n'a pas beaucoup écouté les survivantes et les survivants. Pourtant, ils ont parlé. Dès le début, ils ont témoigné, ils ont écrit des livres. Mais finalement, ce n'est pas ce que l'on retient le plus. Donc, c'est ça que je dis. Et quand j'utilise cette expression pour le titre de mon dernier chapitre, « L'heure de nous-mêmes », c'est la fameuse phrase de « L'heure de nous-mêmes a sonné » d'Aimé Césaire dans la lettre de 56 quand il claque la porte au Parti communiste et qu'il dit à Maurice Thorez, voilà, on ne veut pas juste être ceux qui répètent ce que vous avez pu écrire. Il y a vraiment cette idée de, moi je crois en l'universalisme, l'universalisme qui accepte tous les particuliers. Et donc c'est, laissez-nous aussi, écoutez-nous quand nous racontons nos histoires et faites-en quelque part la référence, plutôt que ça soit votre récit qui devienne la référence pour nous.
Et d'ailleurs, la dernière phrase du livre est très claire. Il est plus que temps de prendre la parole pour raconter nos histoires et légender nos photos. Un livre à nous, mémorial pour les enfants du convoi. Ce livre n'en est que la première pierre.
Oui, parce qu'encore une fois, moi je reviens au collectif et l'idée n'est pas qu'il n'y ait que mon livre. L'idée, c'est qu'à la fois on redécouvre les autres ouvrages écrits par les rescapés, mais que d'autres rescapés puissent continuer à écrire. Et on a avec des amis, monter un groupe d'auto-support comme ça pour justement accompagner d'autres survivantes et survivants, leur faire bénéficier de notre expérience et que leur livre existe aussi. Et ce n'est que dans ce collectif-là que l'on pourra trouver la force de continuer à avancer et faire vérité.
Bien sûr, on vous renvoie tous à la lecture de ce livre, mais je pense qu'il a déjà été beaucoup lu. Comme on dit, il marche très bien.
Il a beaucoup de presse, en tout cas. Et je sens qu'il est entendu, et ça, c'est très précieux, oui.
Alors, à propos d'entendre, on va écouter une dernière musique que vous avez choisie. Je vous laisserai peut-être tout prononcer. C'est Kalamiza, ça, c'est l'interprète.
Oui.
Et Mbarad Nigrinté, dites-moi que
alors,
c'est une musique rwandaise.
Je ne me rappelle plus parce que j'ai envoyé ça. Mbarad Nigrinté. Kamaliza, c'était une chanteuse rwandaise réfugiée au Burundi. Et c'est vraiment des chansons qu'on écoutait juste avant le génocide. Mbarad Nigrinté, ça veut dire. C'est une complainte, en fait. Elle dit je suis triste, mais que puis-je faire, parce que la personne à laquelle j'aurais pu parler de mon chagrin, c'est toi qui viens justement de partir. Le son est très roots.
Ben merci beaucoup, Beata. Juste un petit mot encore. Vous êtes vendredi prochain dans la soirée à Gradignan, la librairie Le Vrai Lieu. Voilà, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Quelques rendez-vous spéciaux copinage. Maintenant, pour finir, en mars, l'association Pucé Art, qui est spécialisée dans les échanges culturels artistiques avec le continent latino-américain, s'intéresse cette fois-ci au volcan et organise une manifestation du 5 au 17 à l'hôtel de Raguenau à Bordeaux, un événement intitulé « Volcan, le feu du monde ». Donc des ateliers, des conférences vont se succéder avec un vulcanologue, Hervé Lecor, pour son dernier livre, qui après nous vivrez, et encore l'amie Françoise Escarpite pour une intervention intitulée « Il n'y a pas que les volcans qui entrent en éruption sur le continent latino-américain ». Pour le détail, voir le site puceart.free.fr. Copinage encore avec l'assaut Pourquoi pas 33 de l'ami Jean-Pierre Lefebvre, habitué de ce micro. Il organise dans les mêmes eaux du 7 au 14 mars des rencontres spectacles à l'Inox rue Fernand Philippard à Bordeaux. Ça tourne autour des figures de Flora Tristan et Louise Michel en particulier. Il sera aussi question de la résistance algérienne, du Portugal, de la révolution des œillets en chanson, de la Palestine aussi bien sûr, avec une conférence gesticulée avec arthrose, une invention de notre ami André Rosweg sur le thème comment je suis devenu juif en l'an 2000, à ne pas manquer donc tous les détails sur le site de l'association Pourquoi Pas 33. Et puis, la semaine prochaine, le 6 mars, pour la journée des droits des femmes, une émission spéciale de Sandra Merlet, qui recevra à cette occasion Soman, une tibétaine, qui témoignera de son parcours d'exil, évidemment. Voilà, bonne semaine, et pour moi, au mois prochain. Merci Beata, au revoir.
Merci
Hugo, au revoir.